Parce que votre journal va désormais plus loin que le papier, l'escouade journalistique 55 du Cantonnier vous présente sa version balado. Sujet d'actualité, rencontres et histoires locales, nous couvrons le territoire de la ville de Disraeli ainsi que certaines des municipalités de la MRC des Appalaches et de la MRC du Granit. Branchez-vous sur votre communauté.
Aujourd'hui, 26 mai 2026, nous avons la chance de recevoir au local du journal communautaire Le Cantonnier, Zarzoun Poitou, qui vient de publier son premier livre aux éditions Jour et Nuit, dont le propriétaire est M. Ronald Martel. Au cours de ce balado, nous discuterons de son livre en trois étapes. Premièrement, les questions sur le livre et le processus d'écriture. La deuxième étape, les questions sur les impacts réels et souhaités du livre. Et finalement, en dernier lieu, l'avenir du livre et de l'auteur. Donc, bonjour Mme Zarzoun Poitou, vous allez bien?
Bonjour Mme Veilleux, je vais très bien.
Bon, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado.
Merci beaucoup, ma première expérience en balado d'ailleurs.
Ça va bien se passer. Donc, on commence immédiatement. Des questions sur le livre et le processus d'écriture. Qu'est-ce qui a déclenché, Mme Poitou, le projet d'écriture de ce premier livre? Est-ce que ça faisait longtemps que vous y pensiez?
J'ai toujours aimé écrire. Quand on avait des dissertations à faire à l'école, j'étais enchantée. J'ai participé aux journaux étudiants au secondaire et au cégep aussi. J'ai écrit beaucoup pour les clubs optimistes. Il y avait des concours d'art oratoire. J'ai fait certains journaux comme un cahier entrepreneurial. C'est moi qui rédigeais les textes pour les entreprises. J'ai fait partie d'un journal d'une MRC aussi, que j'étais appelée, entre guillemets, la reine des textes. J'en faisais beaucoup. Mm-hmm. C'est un journal communautaire jeunesse. Qu'est-ce qui m'a donné le goût d'écrire le livre? Non seulement j'avais le goût, mais c'est une question de synchronicité. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie à tout hasard il y a un an, propriétaire de la maison d'édition, Jour et Nuit, M. Ronald. J'ai parlé de mon souhait. Lui, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les petits tirages. Alors, il était intéressé. J'ai fait ce qu'on appelle une table des matières, un plan de livre, avec ce que je voulais dedans et tout ça. Ça a été accepté d'emblée, avec certains petits correctifs. Fait que j'ai eu la chance d'être accompagnée de M. Martel. Sinon, jamais je n'aurais pu produire ce livre. Produire ça à compte d'auteur, c'est onéreux. On n'est pas accompagné, on ne connaît pas le processus. Moi, je suis vraiment ravie de cette rencontre-là dans ma vie.
Donc, les astres étaient alignés pour que naisse ce premier livre.
C'est à peu près 20 ans que je voulais écrire un livre, mais je ne savais pas par où commencer. N'étant pas accompagnée, le monde de l'édition, ça fait peur un petit peu là, quand tu es tout seul là-dedans, un néophyte. Là. Ah non, j'étais accompagnée, c'est vraiment charmant.
Parfait. Mais donc, ce n'est pas un déclencheur dans votre vie personnelle qui a fait que là, c'était impératif d'écrire le livre.
Oui, il y a quelque chose aussi qui s'est passé. Il y a eu des reportages à la télévision sur la violence scolaire, sur l'intimidation. J'ai eu des statistiques sur des commissions scolaires dans le coin de Montréal sur les actes psychologiques et physiques commis à l'égard d'enfants dans les récréations, les cours d'école et tout ça. J'ai été outrée. J'ai été outrée de savoir que 45 ans plus tard, manifestement, cet aspect-là du milieu scolaire n'avait pas changé. Il y avait encore des victimes, il y avait encore des bourreaux. Et aussi, j'ai vu des recommandations d'une coroner à l'égard de la maltraitance qu'une fille avait subie dans la cour d'école. Je me suis informée, j'ai vu qu'il y avait des jeunes, des enfants de 8 ans, des préadolescents de 12 ans, des adolescents de 17 ans qui se tuaient, qui se suicidaient en peau de chagrin, victimes de tout ça, qui n'étaient plus capables de le supporter. J'ai décidé de livrer mon expérience personnelle en la matière. Est-ce que je pense que mon récit de vie peut aider beaucoup de gens? Puis il faut se dévoiler complètement. Vraiment, là, je me suis mis presque à nu sur certaines expériences. C'est quasiment courageux même à la limite, parce qu'il y a une petite peur d'être jugée aussi. Là.
Donc, vous venez de nous dévoiler le contenu de votre livre.
Oui, le contenu de mon livre, c'est l'intimidation. Moi, j'en ai subi pendant de l'âge de 5 ans à passer un peu 12 ans. L'intimidation n'était pas juste circonscrite dans le milieu scolaire, elle l'était dans le milieu environnement de mon village, mais pas dans ma famille, pas au sein du noyau familial, je tiens à le préciser. Mais c'était 1500 heures de violence que je subissais par année. Je n'étais pas capable de jouer à l'école comme tout le monde. Je ne pouvais même pas me promener dans la rue. Je ne pouvais pas aller me promener dans les sentiers boisés. Je me faisais attaquer. Et des fois, c'était pire que de l'attaque aussi. Suite à ça, j'en ai développé des troubles alimentaires. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Moi, je trouve que les troubles alimentaires, c'est à vous. Les gens qui osent faire des livres comme le mien, selon mon éditeur, il n'y en a pas beaucoup. Mais selon ce que je vois, il n'y en a pas beaucoup non plus. Les troubles alimentaires, anorexie, boulimie, c'est ce que j'appelle ma hyène bête ricaneuse, à m'accompagner pendant quelques décennies. Là, maintenant, je l'ai mis dans une cage de cobalt. Ouais, c'est comme un alcoolique avec la boisson. Quand il arrive de quoi, on peut avoir tendance à aller vers un mécanisme de contrôle, de protection déficient. Et donc, t'es ma bête. Pour ça, j'y veille assidûment. Oui, j'en parle vraiment de façon rigolote, désinvolte, avec franchise de ça. Puis je parle aussi du fait de vieillir aussi en tant que personne qui a déjà eu des troubles alimentaires. Il y a des rebonds qui se font.
Est-ce que vous diriez que votre livre est triste avec ce que vous venez de me dire?
Non. Non, parce que dans mon livre, j'ai choisi une désinvolte de rire un peu de moi, de rire un peu de comment je me sentais. J'ai un style qui est direct, qui est humoristique, qui est caustique, qui est drôle. Les gens qui ont déjà lu certains articles que j'ai faits, soit dans le journal Le Cantonnier ou ailleurs, sauront reconnaître ma plume. Je ne le voulais pas triste, non, je le veux en... Je suis une glorieuse. Je le salue en victoire, ce livre-là. Parce que j'ai réussi à surmonter quelque chose. Mais je me questionne dans le livre. Pourquoi moi, je ne me suis pas suicidée? Je n'avais pas des meilleurs parents que les gens qui sont suicidés. Pourquoi moi, je ne me suis pas suicidée? Pour ce que je suis maintenant, c'est-tu à cause de ce que j'ai subi? En guérit-on vraiment de tout ça? Est-ce qu'on en a des stigmates? Oui, je suis restée avec des stigmates. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai utilisé des photos, beaucoup avec des animaux, beaucoup les photos d'hiver. Et Zarzoun, dans les photos, les bas de vignette, elle invite les lecteurs à plonger dans un monde un peu absurde, farfelu et rigolo. Et c'est sûr que son petit chien, adoré, il est toujours dans le bas du folio. L'écriture est directe, mais comique, mais aussi bouleversante et émotive. C'est une écriture qui va faire réfléchir. Je parle beaucoup des souvenirs qui ont bercé mon enfance. Ben, je n'ai pas été qu'une torturée non plus là, par mes tortionnaires. Je parle de souvenirs beaucoup. Je parle à des tounes. Je réponds à des chansons. J'ai mis Michel Sardou dans mon livre. Michel Rivard est dans mon livre. Dino Ferrer est dans mon livre. Et Félix Leclerc est dans mon livre. Fait que ça fait un livre un petit peu hors commun, vraiment très hors commun, mais avec une fraîcheur aussi. C'est désarmant les questions que je pose de façon crue, que je suis sûre plusieurs femmes se sont posées dans leur propre vieillissement.
Mon Dieu, ça me semble très intéressant. Vous, déjà, vous dites, vous manifestez un peu de votre côté rigolote là, avec le titre. Le titre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre qui est « Une vie, la tête à l'envers » ?
Le titre a été impératif dès le début. Je l'ai pris dès le début, je ne l'ai jamais changé. Moi, j'ai passé une partie de ma vie la tête vers les cuvettes parce que j'étais boulimique, je me faisais vomir. J'ai passé une partie de ma vie, donc, la tête à l'envers dans une posture qui est physiologiquement pas adaptée. Quand on pense que nos aliments, on les garde. Une vie la tête à l'envers, parce que j'ai vécu à l'envers à l'école. Moi, mon parcours scolaire, ça a été comme une horloge sonnant 7 heures, m'indiquant minuit, qui m'y ont l'air en même temps. Ça n'avait pas de bon sens. À l'envers, pourquoi? Tout a été à l'envers. Mon parcours scolaire a été à l'envers. Ça a mis ma famille à l'envers. C'est pas drôle pour les parents qui vivent, qui accompagnent leurs enfants là-dedans. C'est pas drôle. Ça change beaucoup de choses. J'en parle brièvement. Une vie la tête à l'envers, parce qu'encore maintenant, il y a des fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, j'ai le réflexe de vouloir avoir la vie la tête à l'envers. Et je m'y refuse obstinément. Je respecte le corps que j'ai maintenant avec fierté et honneur. Ce titre-là s'imposait, puis dans mon esprit, il ne pouvait pas en avoir d'autre.
Parfait, merci. Maintenant, sur la page couverture, il y a un dessin d'une adolescente qui est habillée de façon singulière, pour ne pas dire un peu extravagante. Qui a fait l'illustration de la page couverture?
Moi et l'intelligence artificielle.
Ah oui.
J'admets que ça a été les deux. C'est une utilisation libre de droit. Tu peux mettre tes couleurs, tes motifs et tout ça. J'ai utilisé un personnage, vous voyez, c'est comme si elle avait un chapeau de sorcière un peu écrasé, des espèces de bottes qui ont l'air trop longues pour ses pieds, personnage filiforme. Pour moi, le personnage représente la désinvolture, le petit je m'en foutisme à quelque part. Le personnage représente l'audace, L'eau, ce qui est rendu dans la vie, puis là où c'est qui est rendu dans la vie aussi. L'endo, ben on voit une madame de dos qui n'a pas l'air de tourner le dos à quoi que ce soit, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Dans ses chemins de l'impossible, ben, elle se donne ses pas beaucoup de chapeau. Sur le dessus, j'ai fait exprès pour avoir une personne que je trouve qui me ressemble beaucoup, libre et assumée. Pour moi, c'est très important, la liberté et d'être assumée. Puis je trouvais en même temps qu'elle fait son bonhomme de chemin, puis elle veut dire aux autres, vous n'êtes pas ici pour justifier votre vie ou pour l'expliquer, vous êtes ici pour la vivre. Je trouvais qu'elle exprimait ça, ce personnage-là.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations dans votre livre?
Il y en a beaucoup d'autres. C'est des photos que j'ai prises. C'est tout du libre de droit. J'ai pris des photos en noir et blanc ou désaturées, plus désaturées, en couleur. J'ai pris des photos de renards. J'ai pris des photos beaucoup de paysages d'hiver. Parce que moi, je déteste l'été. J'adore l'hiver. J'ai pris aussi Johan. Johan, c'est un garçon de ma région d'adoption qui, lui, a un profil particulier. J'adore tout ce qui est neurodivergent. Pour moi, non seulement ça ne me laisse pas, mais ça m'apporte une plus-value dans ma vie. C'est quelqu'un qui fait du micro-dessin. Des dessins, mais des lignes abstraites d'une petitesse épouvantable, épouvantablement bien. Il voulait se faire connaître. Puis je trouve que dans mon parcours à moi, qui est atypique, ce jeune homme-là, qui est beaucoup plus jeune que moi, a eu un parcours atypique. Je trouvais que c'était une œuvre un peu, pas communautaire, mais une œuvre collaborative qui mettait aussi en valeur ce que j'appelle un talent émergent. Puis c'était aussi important pour moi parce que c'est un jeune homme qui est dans le spectre de l'autisme, mais ô combien intéressant. Puis je voulais lui donner sa place-là dans le livre. En fait, j'ai offert cette place-là parce que ça me touchait qu'il voulait être connu, puis ça me touchait qu'il ne pouvait pas vraiment partager ses créations avec les autres.
On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce livre qui sont significatives pour vous, hein, et qui sont liées à votre vie, puis à vos valeurs, puis à votre cheminement, tout ça. Ben, en tout cas, c'est intéressant, Zarzoun. Donc, est-ce que vous avez parlé de vos troubles alimentaires, vous parlez de vieillissement aussi. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre l'intimidation, les troubles alimentaires, les changements corporels que vous qualifiez dans votre livre d'avilissants et déplaisants? Ça me semble un peu actuellement sévère, d'autant plus qu'on est dans un courant actuellement, au Québec du moins, de l'acceptation du corps des femmes d'un certain âge. Donc, je trouve que vos termes, ils sont très percutants. Alors, si vous pouvez m'en parler.
Les termes sont percutants. Ils ont été exprimés ainsi pour faire réagir. Mais oui, moi, mon vieillissement, je ne l'accepte pas. J'accepte pas du tout mon vieillissement physique. Je pense que c'est un sujet tabou aussi, qu'on a été une ancienne anorexique, boulimique. Je connais beaucoup de femmes qui se plaignent de leur corps à 50 ans, mais ils n'osent pas trop le dire. J'ai fait moi-même le cheminement dans ma tête. Est-ce qu'il y a une corrélation? J'ai fait des recherches. J'ai tombé sur la dysmorphophobie, c'est quelqu'un qui va prêter attention de façon exagérée à un changement morphologique. Bon, quelqu'un qui se met à prendre un surplus pondéral dans le ventre. « Ah, j'ai un gros ventre, il faut que je camoufle mon ventre, je ne sors plus, j'ai un gros ventre. » J'ai fait des recherches, vérifié s'il y avait un lien sociologique et psychologique. Effectivement, il y en a un. Les femmes qui ont eu des troubles alimentaires et qui vieillissent sont plus à risque de ne pas accepter leur corps, d'avoir des difficultés avec ça. Et souvent, la hyène ricaneuse, que j'appelle trouble alimentaire, elle pourrait revenir, elle vient nous hanter. La dysmorphophobie, je pense qu'à quelque part, on en fait tous. Je me suis même interrogée. Je pense qu'en vieillissant, on en fait un peu tous. Il y a tous quelque chose qu'on n'aime pas. Soit qu'on fait un peu de la peau de coq dans le cou, soit qu'on a les bras flasques, ce que les chers enfants appellent ça notre jello. Je parle du FFB dans mon livre. FFB, c'est un phénomène. Face, fesses et boule. C'est une connotation, les boules, autant chez les hommes que chez les femmes. Et j'en parle. Ça peut paraître grossier, ça ne l'est pas. C'est que tout ce qui est en place prend la gravité. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les fesses vont descendre. Puis là, après ça, je parle de ma morphologie. Moi, j'ai déjà un visage long. C'est sûr que mon menton ne peut pas descendre plus que ça. Je vais le traîner d'une brouette. Mais j'ai vu d'autres changements chez moi. Puis je m'interroge, c'est-tu vrai que j'accepte vraiment ça? Est-ce que ça m'arrive de regarder les petites jeunes de 20 ans? Petites jeunes femmes de 20 ans? Oui, je l'envie. Puis j'en parle de ça, en même temps, je me dis, qui n'a pas envié une femme de 20 ans, de 30 ans? En vieillissant, il faut se remettre dans notre peau. Mais j'en parle avec espoir. Puis finalement, on a juste un corps. Et je finis avec ce que mon père disait. L'important n'est pas de vieillir, mais de rester beau comme moi. Crie papa.
Bon, mais merci. Bon, vous êtes conscient quand même que ça risque de susciter quelques commentaires et remarques chez vos lecteurs et lectrices.
Oui.
Parce que je tiens à souligner à nos auditeurs, à nos auditrices, que Zarzoun débute à peine la cinquantaine, donc ce n'est pas une personne âgée.
Effectivement. C'est sûr que autant qu'il y aura de lecteurs, autant qu'il y aura de critiques. Autant qu'il y aura de lecteurs, autant qu'il y aura de l'appréciation de mon style d'écriture. Il y en a qui vont peut-être même me juger dans mes valeurs, dans ce que je pense, dans ce que je suis. Mais quand on prend le risque de faire un livre qu'on appelle un pan de biographie, dans cette catégorie-là, pour moi, c'est un essai, on prend le risque de se faire juger, on prend le risque de se faire taguer. Mais moi, je répète, Zarzoun n'est pas ici pour justifier sa vie ou l'expliquer, il est ici pour la vivre. La vivre, c'était ça que je voulais écrire pour mon premier livre.
Parfait. Alors, ça termine notre première partie de ce balado, de cette entrevue avec Zarzoun Poitou, qui vient de sortir son premier livre, « La vie, la tête à l'envers ». Deuxième partie de notre entrevue avec Zarzoun Poitou. Nous allons parler maintenant des impacts réels et souhaités du livre. On a abordé un peu à la fin de la première partie tout à l'heure, mais vous avez choisi un nom d'emprunt, Zarzoun Poitou, comme auteur de ce livre. Avez-vous peur de l'impact de votre livre dans votre famille, dans le milieu où vous avez grandi? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi un nom d'emprunt?
Vous avez tout à fait raison. J'ai choisi un nom d'emprunt. Zarzoun étant le surnom affectueux que mon père me donne. Poitou, c'est un mélange des deux noms de famille de mes parents. Mon livre, j'ai fait exprès pour ne pas identifier ni le nom de mes parents, ni leur métier, ni le milieu, ni la MRC d'où je venais. Je parle de fratrie. Ça n'indique pas combien d'enfants sommes-nous, ni de sexe masculin ou féminin. J'ai une affaire que j'ai identifiée dans mon livre parce que ça s'appelait de même à l'époque le petit boulot. C'est la seule chose que j'identifie. Mon vrai nom, dans le livre, il est à la dernière page, dans le coin inférieur droit. Moi, je me suis dit, j'ai pris la liberté d'écrire le livre, je n'avais pas consulté personne, mais quand même, mes parents ont le droit à leur vie privée là-dedans. Mon père aussi, c'est quelqu'un qui a été un homme public, longtemps connu. Fait que ça a joué aussi là-dessus, oui.
Parfait. Quel impact l'écriture de votre livre a-t-elle eu sur vous comme personne? Est-ce que ça a été douloureux de revenir sur ces souvenirs qui ont été assez pénibles quand même?
J'ai commencé en août 2025. J'ai fait ce qu'on appelle une draft. Ma plume était vraiment là, allègre, ça allait bien. J'ai eu un blocage. Septembre, octobre, novembre, j'ai eu un gros blocage en 2025. Très gros. Après ça, j'ai recommencé à écrire en décembre 2026. Janvier 2026. Là, on l'a pas mal fini, le livre, finalement, février. Oui, ça m'a permis de revenir sur certains aspects et je n'ai pas tout noté dans mon livre parce qu'on ne voulait pas un livre de 200 pages. J'honore mes parents dans le livre. Je fais même un pardon à ma mère dans mon livre. Il faut le faire, là. Je m'excuse à ma mère dans le livre. Je parle d'eux affectueusement et j'ose demander un pardon pour quelque chose qui n'avait pas été expliqué à l'époque. Maintenant, comment je me sens? Je me sens fière, je me sens audacieuse, je me sens quand même victorieuse. C'est un produit que j'assume, et puis moi, je me dis, si quelqu'un a à dire de mon livre ou à me juger, on n'est pas dans les bottines de personne. J'ai fait ce que je pouvais à l'époque, et lisez mon livre pour comprendre comment j'ai pu réagir un enfant de 5 ans, même rendu à 8 ans. Moi, j'ai appris très tôt que l'équation 4 plus 4 faisait 8.2. Puis le point 2, là, il est encore resté. Pour moi, 4 plus 4 vont faire encore 8.2. Moi, je n'ai pas réussi à m'en remettre totalement de ces actes-là. Je ne suis pas meurtrie, je ne suis plus blessée, mais il reste des stigmates que je m'aperçois que j'ai des réactions à cause de ça. J'en ai plus davantage pris conscience.
Parfait. Il y a sûrement un livre. Écrire un livre, c'est un moment de partage, c'est une activité de partage. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez livrer à des personnes en particulier ou à des groupes de la population en particulier?
Oui, surtout à toutes les personnes qui interviennent dans le milieu scolaire, que ce soit la direction, un enseignant, un intervenant. Moi, dans mon temps, ce que j'ai vu, et dans une de mes fonctions professionnelles, il y a quelques années, malheureusement, ce que le parent me disait, son enfant se faisait intimider, ça marche encore comme dans mon temps. Souvent, l'enfant intimidé, on va le prendre, on va le mettre à part. C'est pas ça qu'il faut faire. L'enfant qui est intimidé, si on le met à part, il va comprendre qu'il a réellement fait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas digne d'être avec les autres. L'enfant qui subit du harcèlement constant et répété, il faut donner une aide à l'enfant, à la famille, mais pas une aide juste 10 rendez-vous, après ça, on oublie le projet. C'est une aide soutenue. Ça défait le noyau familial. C'est pas facile pour les parents de gérer ça. Ils ont besoin d'aide. Et aussi, encore aujourd'hui, ce que j'ai déjà vu, c'est que les tortionnaires, eux, ils s'en tirent encore bien. Il faut expliquer aux parents des enfants qui ont des comportements abusifs, physiques ou verbaux. Il faut que ces parents-là soient conscients des actes de leurs enfants. Il faut qu'ils soient conscients que les mots, ça défait, ça tue un petit feu, puis ça peut même amener à la mort. Il faut éduquer, sensibiliser les parents. Il faut que les intervenants des milieux scolaires cessent de prendre de côté l'enfant. Il faut, au contraire, qu'ils lui donnent peut-être des tâches. Raviver ses compétences, garde, là, puis peut-être même des suivis psychologiques. Aux parents, moi, je dirais que votre enfant, s'il ne parle pas, puis s'il y a de la misère à parler de ce qu'il vit, moi, c'était ça chez nous, j'en parlais pas. J'étais pas capable. J'avais l'impression que j'étais, excusez-moi, la pourriture de la famille, celle qui rendait ses parents malheureux. C'est pas drôle, Madame Veilleux, quand on a 5, 6, 7 ans, d'avoir le problème, qu'on est le problème dans la famille. Moi, mes enseignants me disaient que j'étais pas apte à me faire des amis. Il y a même une enseignante qui a eu l'audace de venir porter un livre chez nous, « Comment se faire des amis ». Moi, je dirais aux parents qui doivent se débattre dans le système, croyez en votre enfant, apprenez-lui à se défendre psychologiquement. Puis si vous voyez qu'il y a quelconque signe d'alarme, même s'ils sont minimes, consultez, ne laissez pas ça là. Moi, mes parents ont vraiment tout fait pour moi. À un moment donné, ils étaient à bout de ressources, là. Ça fait 45 ans de ça, puis de ce que j'y vois maintenant, ça n'a pas semblé beaucoup changer. Puis j'ai un message aussi pour tous ceux qui combattent leurs impossibles, tous ceux qui veulent être glorieux et victorieux de la boisson, d'un trouble alimentaire, d'une quelconque dépendance. Il est possible de s'en sortir. Moi, je souhaite aux personnes de s'en sortir mieux que moi, de ne pas avoir aucun stigmate. La guérison totale est-elle possible? Pour moi, non. Mais peut-être que pour d'autres, oui. Je souhaite aux personnes qui se battent contre n'importe quoi actuellement de garder la foi et l'espoir.
Parfait. Merci pour ce message d'espoir. C'est tout à votre honneur. Donc, on en serait à l'avenir de votre livre et puis de vous comme auteur.
Bien, l'avenir de mon livre, j'ai une présentation, un lancement officiel le 9 juin à Beaulac-Garvey, l'ancienne église désacralisée, la salle Mozart au sol d'église, en collaboration avec M. Renaud Grenier, propriétaire. Ça va être le vin d'honneur et tout. J'ai un autre lancement un peu plus amical. Lui, il est avant, il est le 3 juin à Tête-Fort-Mainz, au Café Momo. Et j'ai été invitée dans les auteurs talentueux, ça a été la surprise de l'année pour moi, au hangar des artisans à l'île d'Orléans du 12 au 15 juin. C'est une jeune dame de ce coin-là qui fait la promotion gratuite pour moi et tout ça. Ça, c'est vraiment, ça arrive de même. Et mon éditeur va m'aider en rentrant en librairie aussi. Ça, on commence ça, les prospectus librairie. Moi, j'ai commander 200 livres, 200 exemplaires. Il faut dire qu'on investit. Je vise une deuxième réimpression d'ici janvier 2027 et peut-être développer des conférences avec des groupes, des fédérations, des regroupements qui sont touchés par les problématiques là, mentionnées.
Parfait. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous visez justement à ce que vous donniez des conférences, à intervenir avec des gens qui ont vécu la même chose que vous, ou encore des intervenants qui travaillent aussi pour avoir des conseils, des recettes, du soutien.
Bien, mon plan de match, il n'est pas parfait là-dessus. Mm-hmm. Là, c'est comme présentement, c'est plus, on va essayer de rentrer en librairie après. J'ai mes contacts à faire. On sait qu'on est l'été. Ça va peut-être plus aller à l'automne aussi. Je suis en projet d'un deuxième livre, des trames narratives. Ça va être des fictions.
OK. Donc, vous avez d'autres projets comme auteur?
Oui.
Utiliserez-vous votre nom d'emprunt, Zarzoun Poitou?
Je ne le sais pas. La question est intéressante parce que mon éditeur s'est beaucoup attaché à Zarzoun. Il trouve quand même, ça en fait presque un personnage, de voir l'espèce de jeune fille à l'allure un peu déglinguée avec un chapeau de sorcière presque écrasé sur la tête avec des bottines un peu trop grandes pour elle. Ça peut en faire même un personnage. Mais peut-être pas au deuxième livre. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas. Je vais être franche avec vous, Mme Veilleux. Je me pose la question. Si je vais sortir sous mon vrai nom ou si Zarzoun Poitou va devenir un personnage qui va parler à travers d'autres. La question se pose.
Parfait. Parfait, parfait. Merci. Et en terminant, comme adulte aujourd'hui, si vous pouviez murmurer quelques mots à l'oreille de la petite fille que vous étiez et qui était intimidée, que lui diriez-vous?
Tu as perdu trop de temps à pleurer. Que tes rêves, que tes projets fassent en sorte qu'ils sont plus longs que la nuit. Tu n'es pas ici pour justifier ta vie, mais pour l'expliquer. Fais-les tes choix de façon assumée. N'aie pas peur de déplaire aux autres. J'ai toujours eu peur de déplaire à tout le monde. J'ai écouté beaucoup de gens dans ma vie. J'ai pas toujours pris des décisions qui étaient les miennes. Maintenant, Zarzoun, alias Mylène Croteau,
voilà.
C'est maintenant que je me dévoile. J'ai fait comme mon livre. Mon livre, je dévoile mon nom qu'à la dernière page, je dévoile mon nom qu'au dernier moment de l'entrevue. Je m'appelle Mylène Croteau. Je travaille pour le cantonnier. Je suis coordonnatrice du cantonnier. Fièrement habitante de la région de Disraeli. Je suis une Jacquoise. Je tripe mon milieu et je suis bien contente d'y rester.
Alors, je vous félicite, Zarzoun Poitou, Mylène Croteau, pour votre courage, votre résilience et, je dirais, vos nombreux messages d'espoir. C'est beau de vous entendre. Alors, bon succès avec votre premier livre et tout ce qui viendra par la suite.
Moi, je vous remercie de l'invitation au balado. J'espère que je n'ai pas été trop honteuse. C'était ma première expérience, mais je pense que ça a bien été. Je vous remercie M. Grenier qui était là pour veiller à la régie. Je vous remercie beaucoup, Mme Veilleux. Et ceux qui ont entendu au complice doutent que Mme Veilleux, maintenant, est mon employeur aussi, ma collaboratrice au journal Le Cantonnier.
Elle a cette chance. Fait que finalement, en terminant, je dirais que le contenu de cette entrevue a fait l'objet d'un article qui a paru dans la Cantonnier du mois de juin 2026. Donc, en terminant, bonne écoute et bonne lecture.
Merci.
Le balado du Cantonnier, une production locale de votre escouade journalistique 55 pour le territoire de la ville de Disraeli et des municipalités avoisinantes de la MRC, des Appalaches et du Granit. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À la prochaine, n'oubliez pas de lire notre prochaine publication du journal Le Cantonnier.